écoutes de RFI, il est 19h30 à Paris et Kinshasa, 18h30 en temps universel.
Afrique Soir.
Et c'est l'heure de retrouver toute l'actualité africaine de ce mercredi soir. La première édition d'Afrique Soir vous est présentée par Zéphirin Quadio. Bonsoir Zéphirin.
Bonsoir Romain, bonsoir à toutes et à tous. À la une, en RDC, mobilisation des églises pour une sortie de crise dans l'Est. Les représentants des églises catholiques et protestantes lancent un appel au dialogue national ouvert à toutes les parties au conflit, y compris les rebelles du M23. Le comité international de la Croix-Rouge sommet de quitter le Niger. Information que RFI a pu confirmer. Les autorités n'ont avancé aucun motif pour justifier cette décision. C'est par une simple note verbale que Niamey a exigé le départ de l'ONG. Et puis, de lourdes peines de prison contre le leader du parti d'opposition Ennahda en Tunisie et de plusieurs journalistes et plusieurs personnalités politiques pour atteinte à la sûreté de l'État. Verdict politique et injuste selon des proches de certains accusés. Une année d'obscurantisme pour la presse en Guinée, c'est le titre d'un rapport du rapport annuel sur la liberté de la presse dans le pays, rapport du principal syndicat des journalistes guinéens. Le document décrit un niveau inédit de musellement des médias guinéens depuis un an. Oui, un RDC 10 jours après l'offensive du M23 et de l'armée rwandaise sur la ville de Goma, les principales églises du pays se mobilisent pour trouver une solution à la crise dans l'Est. Cet après-midi, lors d'une conférence de presse, les représentants des églises catholiques et protestantes ont appelé à un dialogue national qui inclurait les différents acteurs du pays, y compris les rebelles du M23. Envoyé spécial à Kinshasa, Alexandra Brangeon.
Pour les représentants des deux principales églises du pays, il ne peut pas y avoir de solution à ce conflit si les protagonistes ne sont pas inclus dans la recherche d'une solution. Représentants des églises catholiques et protestantes ont annoncé le lancement de consultations avec les forces politiques du pays, y compris l'opposition, la société civile et les rebelles du M23. Même si de nombreux Congolais s'y opposent, souligne le pasteur Eric Tsenga, secrétaire général de l'ECC.
La question du M23, je l'ai dit ici, notre rôle ce n'est pas de dire X est un ange, Y est un démon. Si on ne fait pas ce travail, nous voulons trouver la solution. Donc je ne peux pas comprendre que nous parlions de la paix, mais en même temps, nous soyons sceptiques à tout mécanisme qui peut conduire à la paix.
Le responsable de l'église protestante indique que le projet a été soumis au chef de l'État qui ne s'y est pas opposé. C'est la première fois qu'une autorité congolaise évoque publiquement la possibilité d'un dialogue avec le groupe armé. Jusqu'à présent, le chef de l'État s'y était toujours refusé, évoquant une ligne rouge à ne pas franchir. Alexandra Banjon, Kinshasa, RFI.
Et par ailleurs, les combats ont repris dans le sud Kivu. Ils opposent l'armée congolaise et ses alliés au M23 et aux militaires rwandais. Des combats qui se concentrent autour de la localité de Niabiboué dans le territoire de Kalehe. À Kinshasa, le récit de Pauline Azidi.
Nos positions ont été attaquées, affirme Patrick Muyaya, le porte-parole du gouvernement congolais, qui ajoute que le M23 a rompu le cessez-le-feu qu'il avait lui-même unilatéralement décrété le 3 février 2025. Des affrontements qui ont donc commencé aux premières heures du matin ce mercredi dans le territoire de Kalehe, aux alentours de la localité de Niabiboué. Selon le gouvernement, des renforts rwandais auraient traversé la frontière à Goma dans la nuit pour venir appuyer cette offensive sur les positions FARDC. Les populations ont été prises par surprise après l'accalmie de ces derniers jours sur ce front sud. Selon des responsables de la société civile sur place, les gens ont commencé à quitter leur maison, n'emportant avec eux que quelques affaires. Des déplacements ont en effet été signalés vers le sud, notamment en direction de la capitale provinciale, Bukavu. Mais selon une source locale, d'autres habitants ont préféré rester terrés chez eux en attendant la fin des affrontements. Pauline Azidi, Kinshasa, RFI.
Et je rappelle que les combats de la semaine dernière ont coûté la vie à près de 3000 personnes à Goma. C'est le dernier bilan provisoire transmis mardi soir par les Nations Unies. 2000 personnes enterrées, 900 dépouilles encore dans les morgues et des cadavres en décomposition dans la ville. Selon OCHA, les organisations humanitaires craignent désormais des épidémies. Précision de Guillaume Thibault.
S'il y a peu d'informations sur les victimes, 70% des blessés pris en charge par le CICR sont des civils, 77% blessés par arme à feu, 22% suite à l'explosion d'armes lourdes. Les combats en ville ont donc touché en grande majorité la population, estime Bouneima Sidi Mohamed, le directeur adjoint d'Ocha en RDC, basé à Goma.
Malheureusement, les civils ont payé les prix les plus élevés de cette crise. Les affrontements ont eu lieu dans les zones densément peuplées. Des centaines de morts et des blessés dans la population civile. Avec l'utilisation d'armes lourdes dans Goma, les conséquences ont été dramatiques.
Une semaine après l'arrêt des combats à Goma, la ville reste difficile d'accès. Un appel est donc lancé pour permettre la mise en place d'un corridor humanitaire et l'acheminement de l'aide en urgence, indique Bounaïma Sidi Mohamed.
Nos priorités sont la réouverture de l'aéroport de Goma pour permettre l'arrivée des fournitures médicales et l'évacuation des blessés et éventuellement aussi l'acheminement de l'aide humanitaire. Nous appelons aussi à la facilitation de l'accès aux axes routiers entre Goma et le reste de la RDC. Nous appelons tous les acteurs humanitaires, les autorités et la communauté internationale à agir de toute urgence. Sans ces accès, les opérations humanitaires resteront fortement limitées, mettant des milliers de vies en danger.
Priorité pour les humanitaires, faire venir 600 poches de sang à Goma pour les transfusions et 1500 sacs mortuaires pour permettre l'évacuation des corps en décomposition, notamment au sein de la prison et de l'aéroport de la ville.
Guillaume Thibault, notez enfin cette alerte du Comité pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes. Alerte sur l'augmentation des viols, des violences sexuelles utilisées comme armes de guerre sur le front. Annie Maudy est la directrice de l'association Afia Mama.
Au 31 décembre 2024, j'ai publié une tribune justement pour démontrer que la résurgence de l'utilisation des viols et des violences sexuelles comme armes de guerre devenait de plus en plus un problème. Et la guerre ne devrait pas se finir sur le corps des femmes. Les corps des femmes ne sont pas les champs des batailles et que toutes les parties prenantes soient prises pour responsables des cas de viols commis dans les territoires qui sont sous leur contrôle, que ce soit le côté qui est contrôlé par les M23 ou d'autres groupes armés ou la partie qui est contrôlée par le gouvernement. Parce que c'est vrai que le gouvernement a mis en place tous les mécanismes pour prévenir et pour prendre en charge et sanctionner ceux qui pourront commettre ce genre d'exactions. Mais cela n'empêche pour autant pas du tout certains récalcitrants de commettre des actes de violence sexuelle sur les femmes lorsqu'ils sont dans des affronts contre certains groupes armés.
Annie Maudy, directrice de l'association Afia Mama en République démocratique du Congo. En Tunisie, dans l'affaire Instalingo impliquant des hommes politiques, des journalistes, des blogueurs et des hommes d'affaires, les verdicts sont tombés. Les juges ont eu la main lourde à l'égard des prévenus soupçonnés de conspiration contre la sûreté de l'État. Parmi eux, le leader du parti Ennahda, Rached Ranouchi, et l'ex-premier ministre tunisien Hichem Mechichi. La précision de Frédéric Garat.
Âgé de 83 ans, Rached Ranouchi vient d'être condamné ce mercredi à 22 ans de prison par le tribunal de première instance de Tunis. Condamnation dans le cadre d'une affaire baptisée Instalingo qui implique, selon les autorités tunisiennes, plusieurs hommes d'affaires, journalistes et donc le leader du parti islamo-conservateur Ennahda. Le patron d'Ennahda écope d'une lourde peine, mais il n'est pas le seul. Son fils Mouad, sa fille Soumaya et son gendre Rafik Abdesalem, ex-ministre des Affaires étrangères, se sont vus respectivement infligé des condamnations à 35, 25 et 34 ans de prison. Toujours dans cette même affaire, l'ex-premier ministre Hichem Mechichi est condamné par contumace à 35 ans d'incarcération. Dans ce procès monstre où pas moins de 50 personnes étaient inculpées, plusieurs journalistes ont également été condamnés à des peines équivalentes, ce qui fait réagir le syndicat national des journalistes de Tunisie qui dénonce un verdict lourd et injuste. Dans un autre communiqué, le parti Ennahda fustige un procès politique. Les avocats, eux, ont aussitôt prévenu qu'ils feront appel de ces jugements.
Frédéric Garra. Et puis au Niger, l'information circule depuis hier soir. Le gouvernement nigérien demande au Comité international de la Croix-Rouge de quitter le territoire. Les autorités n'ont avancé aucun motif pour justifier cette décision. Bonsoir Willy Diallo.
Bonsoir.
Et c'est donc par une simple note verbale que Niamey a exigé le départ du CICR.
Exactement, oui. Puisque le chef de la délégation de l'organisation internationale bénéficie du rang de diplomate, une simple note verbale a suffi à rendre officielle la décision du gouvernement. Niamey a donc ordonné, avec effet immédiat, la fermeture des bureaux du CICR et le départ de son personnel expatrié. Aucune raison n'a encore été donnée pour expliquer cette décision. Selon une source issue de la société civile nigérienne et partenaire de l'organisation, les accords de siège ont été dénoncés par le ministère des Affaires étrangères. Il y a moins de 3 mois, l'ONG française ACTED et sa partenaire nigérienne APBE avaient subi le même traitement. Pour l'instant, le CICR n'a pas publiquement réagi. Hier, le bilan de son action au Niger durant le premier semestre 2024 a été publié sur son site internet, le jour même de l'annonce de son expulsion du pays. Le CICR y rappelle qu'il était présent au Niger depuis 35 ans, avec des bureaux à Difa, Tillabéri et Taoua. Et il se félicite d'avoir apporté des soins de santé à plus de 120 000 personnes victimes de conflits armés l'année dernière.
Merci Wely Diallo. Une année d'obscurantisme pour la presse en Guinée, c'est le titre du rapport annuel sur la liberté de la presse dans le pays, rapport du SPPG, principal syndicat des journalistes guinéens. Ce document décrit un niveau inédit de musellement des médias guinéens depuis un an. Selon le SPPG, les atteintes graves à la liberté d'informer ont explosé en 2024 sous la transition du président Mamadi Doumbouya. Comparé à l'année précédente, il y a eu 3 fois plus de mesures liberticides contre les journalistes, notamment des séquestrations et au moins un kidnapping. Sidi Yansané a lu ce rapport pour nous.
Le rapport annuel du SPPG ne fait que 2 pages, mais il présente 2024 comme un tournant sans précédent dans l'histoire de la presse guinéenne. Le syndicat décompte un total de 70 atteintes graves à la liberté d'informer, soit une augmentation de 204% par rapport à 2023. Parmi ces atteintes graves se retrouve notamment la séquestration d'une trentaine de journalistes, dont le secrétaire général du SPPG, Sékou Djamal Pendessa, la fermeture pure et simple d'une demi-douzaine des radios et télévisions privées parmi les plus populaires et les plus suivis du pays, et surtout la disparition il y a 2 mois du fondateur du site d'info Le Révélateur 224, Habib Marwan Camara, kidnappé au volant de son véhicule par des gendarmes alors qu'il se rendait à un rendez-vous avec le célèbre homme d'affaires KPC. Depuis l'arrivée de la junte du général Mamadi Doumbouya, le SPPG s'alarme d'un niveau de répression inédit depuis la libéralisation des médias il y a 20 ans, avec des centaines de professionnels jetés dans la précarité, une culture de l'autocensure par crainte de représailles et plusieurs journalistes poussés à l'exil.
Ainsi dit Yansané. Puis Sékou Djamal Pendessa, le secrétaire général du SPPG, s'inquiète lui du sort de son confrère Habib Marwan Camara, kidnappé par des gendarmes en banlieue de Conakry il y a 2 mois. Sékou Djamal Pendessa est au micro de Nicolas Sûr.
Jusqu'à présent, nous ne savons pas où est-ce qu'il se trouve. Nous avons mené beaucoup de démarches. Le syndicat est parti dès le lendemain rencontrer le premier ministre qui n'avait pas assez d'informations. Nous avons appelé le ministre de la Justice qui nous a dit qu'il n'était pas mieux placé parce qu'il n'est pas proche du dossier. Il nous a orienté vers le procureur général près la cour d'appel de Conakry. Nous sommes rentrés en contact avec ce dernier qui nous a dit de laisser la procédure suivre son cours normal puisqu'il a été saisi par l'avocat d'Habib Marwan. Nous avons contacté d'autres personnes dont nous ne pouvons pas dévoiler l'identité sur les antennes parce que c'est un dossier sensible. Nous y travaillons, mais jusqu'à présent, nous n'avons pas d'informations sur son lieu de détention. Nous ne savons pas aussi comment est-ce qu'il est traité.
Il n'est pas le premier à se volatiliser dans de telles circonstances. Hein. On se souvient notamment de Mamadou Biloba et Fonike Mengue, dont on est toujours sans nouvelles, 8 mois après leur disparition. Craignez-vous que Habib Marwan Camara ait été malmené, ou pire encore?
D'ailleurs, son arrestation, elle a été malmenée, puisque vous n'êtes pas sans savoir qu'ils ont brisé les pare-brise de son véhicule pour l'en extraire de force. Donc ça veut tout dire. Nous ne savons pas par la suite qu'est-ce qui lui est arrivé, mais lors de son arrestation déjà, il a été malmené. Et nous craignons évidemment, à partir du moment où, dans les communications officielles, on cherche à nous faire croire que il n'est pas détenu par des services de l'État. Et donc ça, c'est encore plus inquiétant.
Comment les Guinéens peuvent-ils s'informer aujourd'hui?
Ils s'informent à des niveaux très réduits parce que au niveau de l'audiovisuel, les 3 groupes de médias ont leur absence a créé un grand vide. Parce que vous savez, chaque média a son audience. Donc quand vous le fermez, du coup, ceux-là qui étaient habitués à ce média auront du mal à se réadapter. Et d'ailleurs, les médias qui existent aussi subissent des restrictions encore. Hein. Beaucoup ne le savent pas. Il y a des émissions de débat. Dès que ça commence, il y a des brouillages, des ondes. Et il y a des citoyens, quand vous les rencontrez aujourd'hui, et ils pensent que tous les médias sont fermés parce que leurs médias de préférence ne continuent pas. Donc, ce sont des sites d'information qui assurent l'information aujourd'hui. Mais là aussi, il y a des sites. Même ce matin, j'ai cherché à ouvrir un article sur Guinée 7, mais le site n'est pas accessible. C'était verrouillé. Donc, régulièrement, lorsqu'on voit un article un peu compromettant sur un site, on le restreint.
Il y a des restrictions.
Cela veut dire que le droit à l'information bafouée aujourd'hui dans notre pays.
Voilà, Sékou Jamal Pandessa, secrétaire général du SPPG, principal syndicat des journalistes guinéens, interrogé par Nicolas Sûr. Une grève générale de 2 jours a débuté ce mercredi matin au Maroc. Les 5 principaux syndicats du pays ont appelé à cesser le travail dans tout le royaume. Leurs revendications portent sur le pouvoir d'achat des travailleurs, le taux de chômage, mais surtout cette loi votée par le Parlement il y a 2 jours qui encadre le droit de grève. Alexis Bédu.
Une loi liberticide pour les syndicats, malgré certaines concessions du gouvernement qui a finalement interdit au patronat d'avoir recours à des salariés de remplacement en cas de grève. Mais ça n'est pas suffisant pour Younes Firachine du bureau exécutif de la Confédération démocratique du travail.
Cette loi a donné un pouvoir absolu pour le chef de gouvernement pour qu'il puisse arrêter une grève. Il y a une double punition, si on peut dire, des travailleurs grévistes. Un contenu qui atteint et qui restreint le droit de grève.
C'est la première grève générale depuis 10 ans. Elle est plutôt bien suivie dans l'enseignement, dans l'administration publique, mais aussi dans certaines usines, chez Renault à Casablanca et Tanger, par exemple. L'autre grande revendication des syndicats concerne le pouvoir d'achat des travailleurs.
On s'est mis d'accord pour une augmentation des SMIG à 10%, mais malheureusement, la majorité des employeurs ne respectent pas la loi et face à la flambée des prix, par exemple la viande, poulet, toutes les matières qu'utilisent les Marocains d'une manière quotidienne ont augmenté à des prix inacceptables.
Et il y a aussi ce taux de chômage qui ne cesse de grimper depuis 3 ans. Il s'établit à plus de 13% et atteint des sommets chez les jeunes. Près de 37% d'entre eux sont aujourd'hui sans emploi.
Alexis Bédu. La mission multinationale de sécurité en Haïti n'est pas en danger. C'est en tout cas ce qu'affirment les autorités kényanes. Hier, les Nations Unies ont annoncé le gel des financements américains de cette mission menée par le Kenya pour aider les autorités haïtiennes à lutter contre les gangs. Les États-Unis devaient contribuer à hauteur de 15 millions de dollars sur un budget total de plus de 110 millions de dollars. Les autorités kényanes assurent que la décision de Washington n'affectera pas la mission. Correspondance à Nairobi. Gaël Alex.
Pour Korir Singoï, le ministre des Affaires étrangères kényan, il n'y a pas péril en la demeure. Il suffit de faire les comptes. Le fonds fiduciaire a déjà reçu 85 millions de dollars, explique-t-il, grâce à de multiples contributeurs, comme le Canada, la France, la Turquie, l'Espagne et d'autres encore. Korir Singoï l'assure donc, le fonds dispose de ressources suffisantes pour continuer à financer la mission jusqu'à la fin de l'année. D'autant plus qu'elle est bénéficiaire de la dérogation, ajoute Monica Juma, conseillère sécurité du président kényan. Elle fait ici référence à une liste d'exemptions au gel des financements américains publiée fin janvier par le département d'État. Les autorités kényanes concèdent néanmoins que pour perdurer, la mission en Haïti devra changer de forme. La transition vers une mission des Nations Unies à part entière est une priorité, conclut le ministre des Affaires étrangères. En décembre, la presse kényane avait révélé que les policiers déployés en Haïti n'avaient pas touché leur paye depuis plusieurs mois, ce qu'avait démenti l'inspecteur général de la police. Gaël Alex, Nairobi, RFI.
Enfin du football avec Ismaël Benacer qui a été officiellement présenté par son nouveau club, l'Olympique de Marseille, ce mercredi. Il a donc été officiellement présenté à son nouveau club, plus précisément. L'international algérien est prêté à l'Olympique de Marseille par l'AC Milan pour les 6 prochains mois avec une option d'achat à la fin de la saison. Ismaël Benacer, milieu de terrain de 27 ans, vient de passer 5 années à Milan en sélection nationale. Il a été sacré champion d'Afrique, c'était en 2019 avec les Fennecs. Il avait été désigné meilleur joueur d'ailleurs de la compétition à Marseille. Il espère donc se relancer après des derniers mois marqués par des blessures. Il arrive dans un club où il a toujours rêvé de jouer.
J'étais supporter en moi de l'OM, j'ai toujours été supporter de l'OM en étant petit. De toute façon, quand on habite Marseille ou près de Marseille, il n'y a pas d'autre club que l'OM. J'ai un souvenir, je crois, c'est quand j'avais 8-9 ans. Je suis parti voir Marseille-Nantes, ça remonte. J'étais parti voir avec un collègue à moi et son père. Sinon, après, je regardais l'OM qu'à la télé avec mon père. Ça a toujours été quelque chose d'exceptionnel. Moi-même, j'ai joué ici il y a 2 ans en amical et j'étais de l'autre côté. Et déjà, c'était quelque chose d'exceptionnel. Alors, j'imagine pas si je suis du bon côté, comment ce sera.
Voilà l'Algérien Ismaël Benacer, nouveau sociétaire donc de l'Olympique de Marseille. Et retour en Tunisie, dans les pas cette fois de Saïda Manoubia, une sainte ayant vécu à Tunis au XIIe siècle. Aujourd'hui, le mausolée de Saïda Manoubia attire de nombreux Tunisiens. Sa proximité avec l'hôpital Ghazi, un hôpital psychiatrique, en fait un lieu d'accueil et un refuge surtout pour tous. Même si peu de Tunisiens connaissent l'histoire de cette sainte révolutionnaire, pour son époque, son aura et les rituels qui l'entourent la démarquent dans le monde du soufisme. Un monde très masculin. Le mausolée de Saïda Manoubia, un Manoubia, un reportage de Lilia Blaise.
Chaque dimanche, le mausolée de Saïda Manoubia à la Manouba, en banlieue ouest de Tunis, prend vie. Les rituels et les chants autour de la sainte font partie du culte. Ses fidèles de tous âges et issus de toutes les classes sociales, en majorité des femmes, viennent assister au spectacle. Ahlem, 30 ans, est une habituée.
Je viens chaque mois pour me recueillir, mais aussi pour me défouler. Les chants et la danse m'apaisent beaucoup.
D'autres viennent pour demander à la sainte sa bénédiction et se recueillir sur sa tombe, comme Latifa, 65 ans.
On vient depuis qu'on est enfant ici. C'est une tradition ancienne. Il n'y a pas que les gens de la capitale, il y a aussi des gens qui viennent d'autres régions pour prier ici. Là, on met du henné sur nos mains. Cela va avec le rituel. C'est pour célébrer la sainte et aussi pour souhaiter la réussite aux jeunes femmes qui vont se marier. Les fidèles de Saïda Manoubia, les plus aisés, font don de nourriture et d'argent pour les plus pauvres qui viennent s'y recueillir.
En Tunisie, la religion majoritaire est l'islam. Et le soufisme, un courant mystique, fait partie de la culture depuis des siècles. Plus d'un millier de mausolées existent dans le pays, mais rares sont ceux dédiés à des saintes. Saïda Manoubia est l'une des plus connues, car son hagiographie a été écrite par un imam avant d'être traduite par l'historienne Nelly Amri. Rim Lajmi, enseignante à l'université de la Manouba, a consacré plusieurs articles à la sainte.
Saïda Manoubia, elle représente l'exception au féminin parce que c'est une fille qui s'est rebellée contre son environnement, quand on parle du Moyen-Âge, qui n'a pas voulu se marier.
D'après son histoire, Saïda Manoubia aurait ainsi suivi des cours de jurisprudence islamique chez des disciples masculins et aurait même prié à la mosquée de la Zitouna, un acte révolutionnaire dans le monde musulman du XIIe siècle.
C'est une sainte qui tenait toujours une canne avec laquelle elle frappait sur le sol pour représenter le pouvoir et qui commandait les hommes sur la terre. Et les esprits également.
Le mausolée a été incendié comme une trentaine d'autres après la révolution de 2011 par des extrémistes religieux. Aujourd'hui restauré, il reste un refuge pour tous et surtout les plus marginalisés sur le plan social. Lilia Blaise, Tunis, RFI.
Actualité musicale à présent avec la sortie de Kinetic, le nouvel album du groupe belge Black Flower. Sur ce nouveau disque, Pierre Vallée, le quintet bruxellois emmène son jazz éthiopien vers des ambiances où les sons anciens et modernes se mélangent pour créer un groove hypnotique.
Emmené par le saxophoniste Nathan Demps, Black Flower fait partie de ces nombreux groupes occidentaux fascinés par le jazz éthiopien des années 60-70. Mais le mérite qu'on peut leur reconnaître, c'est que non seulement ils n'ont jamais proposé de copie conforme, mais ils ont toujours fait évoluer leur ethio-jazz d'album en album. Si l'utilisation d'instruments traditionnels comme la flûte Washint maintient le lien avec Addis Abeba, ils savent faire progresser leur musique pour s'émanciper de la tutelle éthiopienne et nous emmener vers des paysages inconnus. Et cette notion d'évolution est justement au cœur de la démarche de Black Flower sur ce nouvel album. Chaque groove, chaque rythme, chaque pulsation canalise l'énergie brute, agissant comme un perturbateur qui conduit à la transformation. Ce disque kinétique incarne une philosophie qui consiste à s'adapter au changement plutôt que d'y résister, offrant une déclaration audacieuse et dynamique sur la façon de se libérer des limites de la vie. Sur ce nouvel album, Black Flower renouvelle l'expérience en invitant la chanteuse éthiopienne Meskerem Mees sur le morceau Monkey System. Un morceau à la rythmique entêtante qui lui aussi évoque une question philosophique en nous interrogeant sur notre tendance à nous accrocher à des désirs qui, en fin de compte, nous empêchent d'avancer.
Avec ce nouveau disque, les 5 comparses de Black Flower nous proposent un voyage atmosphérique et planant, une expérience musicale enivrante, un métissage pleinement réussi.
Somewhere deep in the DNA, instinct gone astray, and survival becomes your rival. Programmed evolution, evolution program. Self-destruction, the wrong instructions, you're trapped.
Extrait de Kinetic, le nouvel album du groupe belge Black Flower, chronique signée Pierre Vallée. RFI, 18h56, en temps universel, dans un court instant, un nouveau journal, suivi d'Accent d'Europe. L'émission s'intéresse aujourd'hui au combat des femmes inuites du Groenland, combat contre un système répressif mis en place par le Danemark. Des tests de parentalité qui aboutissaient au placement des enfants par les services sociaux, test abandonné depuis le 21 janvier dernier, mais aussi stérilisation forcée de milliers de femmes dans les années 60-70. Témoignage.
Le stérilet a complètement détruit ma féminité. J'aurais pu avoir des enfants et j'ai un âge où je pourrais même être grand-mère. J'aimerais qu'on me dise, on est vraiment désolé de vous avoir fait ça, c'était illégal. Je n'avais que 13 ans, je n'étais qu'une enfant.
Voilà, ce témoignage et beaucoup d'autres sont à retrouver dans Accent d'Europe avec un reportage exceptionnel d'Otilia Ferré. C'est à 19h10 temps universel ou en podcast sur le site de RFI. Et puis à 19h40 temps universel, le grand reportage s'intéresse lui au secteur viticole chinois. Secteur qui a connu pendant une trentaine d'années des hauts et des bas. L'enjeu économique est très important. La Chine compte 800 000 hectares de vignes. La quantité de vin produite augmente. La qualité aussi, à la clé des récompenses et des médailles. Et dans cet essor, les femmes brillent par leur excellence et leurs innovations. Beaucoup d'entre elles ont trouvé leur place. C'est le cas de Fongyi Wu Al-se, experte et consultante chez Dragon Phoenix, connue aussi bien en Chine qu'ailleurs dans le monde.
J'ai découvert qu'en Chine, les femmes sont beaucoup plus ouvertes à la direction d'entreprise, bien plus qu'en Occident, je pense. C'est peut-être dû au fait que le vin, en particulier, est une industrie très, très accueillante pour les femmes en Chine. D'où un effet boule de neige qui encourage de plus en plus de femmes à entrer dans l'industrie du vin.
En Chine, les vignerons ont vraiment le nez. Un grand reportage de Cléa Brodust à suivre à 19h40 temps universel. Et puis à suivre aussi le rappeur Sensei qui présente son nouveau projet Des Rires et des Pleurs, premier volet d'un triptyque. Un projet dans lequel il a créé de nombreuses connexions, notamment avec la star malienne Sidiki Diabaté. Il expliquera tout ça à Claudie Ciard, Queen Stelina et Wara Charlotte Gomis à 20h10 temps universel dans Couleur Tropicale. Mais en attendant, voici un extrait de son titre Mauvais Boy.
Je pourrais nager avec le piano, mais je vais me noyer dans ton BPM. Elle veut des bisous et des petits câlins.
Voilà, Mauvais Boy de Sensei, invité de Couleur Tropicale à 20h10 temps universel. Ainsi s'achève cette première édition d'Afrique Soir. Merci de votre attention et excellente soirée à l'écoute de Radio France Internationale.
Témoin d'actu. Le podcast d'info de RFI. Alexandra Cagnard.
Comment se prépare-t-on à accompagner des jeunes dans leur rencontre avec l'histoire et que retenir de cette mission? À l'occasion des 80 ans de la libération d'Auschwitz, Baptiste Coulon a suivi le déplacement d'une classe de terminale. Une expérience à la fois professionnelle et personnelle qu'il raconte dans cet épisode.
Témoin d'actu avec Alexandra Cagnard, tous les samedis à 19h41 sur RFI et en podcast sur RFI.fr.